Cantabile con Brio. Une émission de musique classique proposée sur RCF Sud Belgique et préparée par Eric Rouillet du label Le Palais des Dégustateurs.
Contre-rime, suite de trois pièces pour piano seul, composées entre 1925 et 1926, et créée en 1927 à l'Hôtel Majestique de Paris par Marius-François Gaillard. Les passerelles et les ricochets que permettent cette œuvre mériteraient à eux seuls que l'on y accorde une sollicitude de reconnaissance qui dépasse largement l'intérêt musical. Ces contre-rimes sont initialement une forme poétique créée par le poète français Paul-Jean Toulet, ami du compositeur, et qui parurent dans les années 1900 avec comme format le Dixin, poème de divers tel que pouvait le concevoir Joachim du Bellay. Figurez-vous que Paul-Jean Toulet fut colocataire de Kurnonski, élu prince des gastronomes en 1927, qui jouera un rôle important auprès des chefs par son influence bienveillante et délicate dans les médias de l'époque. Il est resté célèbre pour sa quinte flush royale, ses cinq plus grands vins, le Château Grillé, la Coulée de Serran, le Mont Raché, le Château Chalon et Yquem, soit cinq grandes régions viticoles différentes pour satisfaire tout le monde dans un grand souci de diplomatie. Les contre-rimes de Maurice Delage sont bien éloignées des assiettes nocturnes qui accompagnent les gourmandises excessives de la bouteille et vont plutôt résonner dans la pondération, la prévenance et la subtilité. À tel point qu'un critique de l'époque, Jacques Janin, y fustigeait l'œuvre dont le titre n'avait aucun sens et dénonçait un musicien précieux et timoré pour qui la musique est un passe-temps de boudoir. Je dois reconnaître que cette suite de trois pièces pour piano n'aura jamais vraiment excité les interprètes puisqu'il doit seulement en exister un, voire deux enregistrements. Mais qu'il me soit permis d'imaginer que si l'on déroule le tapis avec précaution, on peut découvrir des petites choses bien intrigantes et attachantes. Évidemment, rien d'exclamatoire ou de grandiloquent. Tout est ici feutré dans le sous-entendu, la finesse, les détours gracieux. On ne déguste pas à gorge déployée, mais au compte-gouttes, pour y revenir et réactiver cette sensation de bien-être et de musique saine, sans grossièreté, et qui fuit la balourdise. Du bon goût affirmé dans la délicatesse et la discrétion, sans jamais pérorer. Premier mouvement, Nuit de Noël, avec l'emprunt d'un vers du poète, toute allégresse à son défaut. Thank you. Né en 1879, Maurice Delage ne commença pas à s'intéresser à la musique précocement, mais en autodidacte, par graduation, et selon ses propres codes et ses propres envies. Il aurait même pu se destiner à la carrière d'agent maritime et passa quelque temps en Angleterre. Le hasard devait l'amener à rencontrer Léon Polfargue, qui lui présenta Maurice Ravel. Maurice Delage raconte ainsi cette première rencontre. « Le jeune maître accueillit avec sang-froid mon désir tardif de faire de la composition. » Je lui pianotais de mémoire les choses que j'aimais avec des doigtés épouvantables, lui expliquant que je jouais surtout un peu de violoncelle. Il m'offrit tout de suite de m'apprendre le métier. Avant le Pierrot Lunaire de Schoenberg, il avait pu composer quatre poèmes hindous, d'une aisance instinctive dans le maniement de la dissonance délectable, avec le désir de reculer les frontières du son. Il était d'une imagination fertile et savait improviser au piano, mais son exigence impitoyable empêchait presque constamment de terminer ses œuvres. Toujours incertain de leur valeur. Quand on avance à découvert devant Ravel, l'humilité est une convocation constante. Les contre-rimes n'avaient pas vraiment vocation à lui apporter la reconnaissance du public pour le rassurer. Tout y est allusion furtive, irisation comme un mirage qui traverse l'espace sonore. Le deuxième mouvement, Rêve, est dédié à Manuel de Falla. Atmosphère allégée, tamisée, impondérable, comme la pantomime de l'amour sorcier. Certains y entendront même des échos des parfums de la nuit d'Emmanuel Chabrier. Qui peut décider que Contre-Rime est une œuvre mineure, puisque l'histoire en a décidé ainsi? L'histoire ne porte non seulement aucune vérité, mais en propose bien souvent toutes les falsifications possibles. C'est à l'auditeur de décider et de décréter et d'assumer ses propres choix et ses goûts. Découvrons ces magnifiques rêveries de Maurice Delage, indéfinissables et qui semblent se dissoudre pour réapparaître dans un jeu d'approche et d'éloignement où tout se serre et se détend en même temps. De petits espaces qui vous invitent à les rejoindre dans leur voyage.
Thank you.
mais c'est l'époque de la Grande Guerre. Et comme la plupart des artistes de cette période, Maurice Delage se porte volontaire pour être rapidement réquisitionné. Il servit dans de nombreuses missions, dont Verdun, où les conditions de vie précaires altérèrent sa santé. À partir de 1917, il sera régulièrement hospitalisé pour être finalement réformé en 1918. Et la Deuxième Guerre mondiale, avec l'apparition du national-socialisme. Il décide de ne jamais adhérer au syndicat des artistes, compositeurs, musiciens et interprètes, formalité pourtant obligatoire pour être joué. Bien d'autres s'y soumettront par opportunisme et ne seront jamais ni critiqués ni inquiétés pour cela. Ce fut une décision de bravoure qu'il faut s'imposer de célébrer et de ne jamais oublier. Maurice Delage, dans le silence et sans jouer les héros, renonça ainsi à sa carrière et n'aura à aucun moment pactisé avec les Allemands. Il fut néanmoins généreusement dénoncé pour collaboration le 25 août 1944. Il le paiera très cher, même s'il fut acquitté de ses accusations rapidement. Ses œuvres cessèrent d'être radiodiffusées et données en public. C'est toujours le cas de nos jours, pour des raisons différentes. Les journalistes de nos radios nationales souffrent d'incompétence et d'inaptitudes intellectuelles à la curiosité des grandes choses. Parfois, ils y ajoutent même la gourmandise du manque d'intégrité. Le troisième mouvement de ce joyau se nomme « Danse ». Une danse d'abord rythmique, qui semble fière et rebelle pour devenir triste et méditative. Cela s'emballe et gesticule étrangement à nouveau pour se raréfier et s'effilocher, jusqu'à se conclure sur la pointe des pieds. Le compositeur eut si peu de succès avec cette œuvre qu'il se résigna à l'orchestrer. Écoutons le dernier mouvement de cette œuvre magistrale d'enchevêtrement, qui est assurément une perle majeure de notre littérature musicale. Il m'est agréable d'imaginer que le label discographique Le Palais des Dégustateurs puisse prochainement produire un enregistrement de cette petite merveille, avec d'autres compositions tout aussi magiques qui provoquent mon admiration et un devoir de leur rappeler à quel point elles nous sont utiles.